franceinter.fr.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, en partenariat avec le journal Libération, l'affaire Forisson ou l'itinéraire d'un négationniste. Le négationnisme, arme d'intoxication massive, c'est le discours qui nie le génocide des Juifs au cours de la Seconde Guerre mondiale. Et il s'applique tout autant à la volonté d'extermination du Troisième Reich qu'à l'emploi des chambres à gaz. Il s'agit donc de nier la réalité de cet anéantissement systématique, massif et industriel de la communauté juive. L'Holocauste ne serait que le plus gros mensonge du XXe siècle fomenté par les Juifs pour culpabiliser l'Occident et légitimer la création de l'État d'Israël. En France, c'est un homme en particulier, Robert Forisson, qui a porté et incarné cette idéologie. Médiatisé à la fin des années 70, il n'a cessé de diffuser son discours tout au long des décennies qui ont suivi. Face à ce délire coupable, cet attentat contre la mémoire et le respect des victimes, les historiens, la justice, la société civile ont dû réagir. Et il a fallu combattre Forisson, mais par la réflexion, la connaissance, la loi, pour dévoiler le ressort de ce qui n'est en réalité qu'une expression supplémentaire de l'antisémitisme. En seconde partie d'émission, nous recevrons le journaliste Dominique Albertini, auteur en septembre d'une enquête avec le journaliste David Doucet, intitulée « La fachosphère », publiée par Flammarion. Nous reviendrons avec Dominique Albertini sur le discours négationniste et sur sa portée sur le net. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonneuve avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attaché de production Valérie Priolet-Izard, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice L'Aigle, lecture Philippe Pierrard, à la technique aujourd'hui Léo Prangère.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Mars 2007, 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris. Cette chambre, et les tribunaux en général, un homme en a fait depuis 30 ans son terrain de jeu favori, sa tribune. Cet homme, c'est Robert Forisson. Nouveauté, ce 12 mars 2007, ce n'est pas en qualité de prévenu que le négationniste français se présente à la barre, mais comme plaignant. Et la personne contre qui il porte plainte n'est autre que Robert Badinter. Les faits remontent au 11 novembre 2006. Ce soir-là, le célèbre avocat, ancien garde des Sceaux, participe à une émission de télé. Interrogé sur la question de la liberté d'expression, il explique qu'elle s'arrête là où commence la provocation à la haine raciale. Pour illustrer son propos, il déclare « Le dernier procès que j'aurais plaidé dans ma vie avant de devenir ministre, c'est l'affaire Forisson. Je l'ai fait condamner en tant que faussaire de l'histoire ». Il n'en fallait pas plus pour que Robert Forisson porte plainte pour diffamation, arguant qu'il n'a jamais été condamné pour avoir falsifié l'histoire. Près de 30 ans après, en 2007, les deux hommes se retrouvent dans un tribunal. Après une traversée du désert médiatique, le négationniste français a repris du poil de la bête. Il était accueilli en grande pompe quelques mois plus tôt en Iran pour une conférence sur la négation de l'Holocauste. Sous la houlette de son président Ahmadinejad, ce pays tient un discours officiellement négationniste. Une consécration pour Robert Forisson. En face, Robert Badinter se défend. Lui qui a perdu plusieurs membres de sa famille, dont son père, dans les camps nazis, veut faire en sorte que ce procès soit celui du négationnisme tout entier. Il demande donc à ce que le procès soit filmé et surtout, il appelle en qualité de témoin des historiens spécialistes de la question. C'est d'ailleurs l'un d'entre eux, Henri Rousseau, qui vient rappeler pourquoi il a créé le néologisme négationnisme. Car longtemps, ils se sont appelés les révisionnistes, mais c'était leur donner trop d'honneur que de l'accepter, car réviser est une démarche normale de l'historien qui doit remettre en cause en permanence les interprétations. C'est la démarche empirique légitime dans toute approche scientifique, à la lumière, par exemple, d'éléments nouveaux. Les négationnistes nient eux pour les faits établis. D'ailleurs, les premiers furent les nazis eux-mêmes qui ont opéré la destruction systématique des traces du génocide. Langage codé, utilisation des fours crématoires, destruction de presque toutes les chambres à gaz au moment de la défaite. En 30 ans, et malgré des années de travaux, d'études et de réflexions, le postulat du négationnisme n'a pas bougé. Alors, comment une telle idéologie a-t-elle pu voir le jour? Qui est Robert Faurisson? Et qu'est-ce qui a permis à son discours d'être médiatisé jusqu'à devenir un discours d'État en Iran et séduire encore aujourd'hui, parfois, la jeune génération?
Gérard Leblanc.
Alors, nous venons d'entendre, n'est-ce pas, dans la bouche de M. Faurisson, un exposé universitaire en style parodique. La seule mystification, c'est vous. Vous défendez votre beefsteak, vous essayez de vous faire un peu de publicité. Ce genre de manipulation, j'emploie volontairement un mot apparemment désagréable, ce genre de manipulation du texte, n'est-ce pas, ne sème la confusion que dans les esprits qui sont déjà confus.
Alors, un exemple, M. Faurisson, pour terminer très brièvement.
Je lis sur le ton grave et même majestueux qui est requis par l'auteur. Sous mon aisselle gauche, une famille de crapauds a pris résidence, et quand l'un d'eux remue, il me fait des chatouilles. Sous mon aisselle droite, il y a un caméléon qui leur fait une chasse perpétuelle afin de ne pas mourir de faim. Il faut que chacun vive. Cela dit, il se déclare beau comme une corvette cuirassée à tourelles.
Monsieur Faurisson,
quelle animation pour une thèse qui aurait été dictée par la peur, par le conformisme universitaire, etc., etc.
Non, par le goût du
c'est magnifique. Non. Quelle émotion.
Le 27 avril 1971, sur le plateau de Potsdam, la célèbre émission culturelle présentée par Michel Pollack, les Français découvrent Robert Faurisson, ce professeur de littérature d'une quarantaine d'années plein d'assurance. Il s'est déjà fait remarquer à plusieurs reprises dans le petit monde littéraire. À coups d'articles, il dénonce la mystification des interprétations de certaines œuvres de la littérature. Selon lui, il faut coller au texte, faire abstraction du contexte et de l'auteur pour y dévoiler le sens véritable. Mais ce 27 avril 1971, à l'issue de l'émission, une autre partie se joue en coulisses. Michel Pollack et Robert Faurisson prolongent leur discussion. Rapidement, l'universitaire dérive. Il commence à parler du mythe des chambres à gaz. Les deux hommes en viennent presque aux mains. C'est que Robert Faurisson ne limite pas son entreprise de démystification aux simples écrits littéraires. Non, il se pique aussi d'histoire contemporaine. Depuis une vingtaine d'années, il est hanté par une idée, l'humiliation du peuple allemand au sortir de la guerre et la justice des vainqueurs imposée aux vaincus. Ce ressenti est nourri, puis amplifié par la lecture des premiers auteurs révisionnistes français. D'abord, Maurice Bardèche, écrivain fasciste et initiateur du courant qui, dès 1948, publie Nuremberg ou La Terre Promise, dans lequel il dénonce un soi-disant mensonge des chambres à gaz. Ensuite, le mensonge d'Ulysse, de l'ancien militant socialiste et résistant Paul Racinier, déporté au camp de Buchenwald pendant la guerre. Racinier n'a pas vu de chambre à gaz, et pour cause, il n'y en avait pas dans ce camp. Robert Faurisson se plonge dans le sujet, se rend plusieurs fois à Auschwitz, en Pologne, où il consulte des archives. Il remarque des incohérences sur les plans de certains crématoires, constate la mauvaise reconstitution opérée par les soviétiques et conclut à l'impossibilité technique des chambres à gaz. À Auschwitz, qui en octobre 1978 fait l'ouverture de tous les journaux télé.
6 millions de juifs disparus, une invention pure et simple, une invention juive. À Auschwitz, on n'a gazé que des poux. Les juifs n'ont qu'une idée en tête, mettre la pagaille partout, leur but, faire de Jérusalem la capitale du monde. Ces propos, vous pouvez les lire dans l'Express de cette semaine. L'homme qui les tient, Leichmann, français, l'organisateur de la grande rafle du Veldiv, vit paisiblement en Espagne. Il s'appelle Louis Darquier de Pellepoix. Il était commissaire général aux questions juives de 42 à 44.
Les 15 pages offertes par le magazine L'Express à Darquier de Pellepoix choquent l'opinion publique. Comment nier l'existence des chambres à gaz après les procès de Nuremberg en 1946 et d'Eichmann en 1961, après les travaux d'historiens pionniers comme Léon Poliakov, et surtout, après les témoignages des rescapés et de certains bourreaux? Et pourtant, à la fin des années 70, en Europe et aux États-Unis, le négationnisme prend l'ampleur. Il s'appuie notamment sur une historiographie qui accuse un retard considérable sur le sujet. D'ailleurs, Robert Faurisson est l'un des premiers Français à se rendre à Auschwitz pour consulter les archives. Et sa méthode se met en place. Il repère minutieusement toutes les contradictions entre les documents ou les témoignages qui soutiennent son postulat. Il lit d'autres négationnistes étrangers et publie ses premiers articles. Surtout, il attend le moment opportun qui lui permettra de donner un écho national à ses thèses et d'asseoir ainsi sa notoriété. Cette fenêtre, c'est Darquier de Pellepoix qui lui ouvre. Quelques semaines seulement après la publication de l'interview dans l'Express, le 16 novembre 1978, le Matin de Paris lance l'affaire Forisson.
Les séquelles de l'affaire d'Arquette Pellepoix, un maître de conférence de l'université de Lyon 2, Robert Forisson, vient d'être suspendu pour un mois. Dans une interview au journal Le Matin, il avait minimisé les crimes nazis et nié l'existence des chambres à gaz. À la demande du ministre des Universités, une enquête a été ouverte sur l'étrange monsieur Forisson, le conférencier à la mémoire courte.
Sur une page entière, le titre s'affiche comme une provocation insupportable. Les chambres à gaz, ça n'existe pas. Ça y est, le professeur Forisson de l'université Lyon 2, un titre dont lui et les médias useront à outrance, accède pour la première fois à une diffusion nationale. À Lyon, des étudiants juifs, pour la plupart, dénoncent les propos antisémites du maître de conférence. Alors qu'il est suspendu, Robert Forisson se présente le 20 novembre à l'université. Il est violemment pris à partie par une soixantaine d'élèves. Et le scandale s'invite sur les bancs de l'Assemblée nationale. Des députés demandent d'ouvrir une enquête sur les propos tenus par ce professeur d'université. Face à l'ampleur de la polémique, c'est le journal Le Monde qui entre en scène. Depuis 4 ans, Robert Forisson essaie tant bien que mal d'être publié dans ce quotidien. 4 ans de refus. Mais le 29 décembre 1978, Le Monde décide de publier un texte de Robert Forisson écrit quelques mois auparavant, dont voici un extrait.
Le problème des chambres à gaz ou la rumeur d'Auschwitz. Nul ne conteste l'utilisation de fours crématoires dans certains camps allemands. La fréquence même des épidémies dans toute l'Europe en guerre exigeait la crémation, par exemple des cadavres de typhiques. C'est l'existence des chambres à gaz, véritable abattoir humain, qui est contestée. Depuis 1945, cette contestation va croissant. Tandis que sur les crématoires d'Auschwitz, on possède des milliers de documents, on ne possède sur les chambres à gaz, qui paraît-il flanquaient ces crématoires, ni un ordre de construction, ni une étude, ni une commande, ni un plan, ni une facture, ni une photo. Lors de 100 procès, rien n'a pu être produit. Après la guerre, la Croix-Rouge internationale, le Vatican, les nazis, les collabos, tous déclaraient avec bien d'autres, les chambres à gaz, nous ne savions pas. Mais comment peut-on savoir les choses quand elles n'ont pas existé? Le nazisme est mort, et bien mort, avec son Führer. Reste aujourd'hui la vérité. Osons la proclamer. L'inexistence des chambres à gaz est une bonne nouvelle pour la pauvre humanité. Une bonne nouvelle qu'on aurait tort de tenir plus longtemps cachée.
Es spricht der Führer!
Toute la rhétorique forissienne est là, son pseudo-argumentaire est brandi et ne bougera plus. Un sophisme absolu. On découvre la méthodologie négationniste. D'abord, rappeler avec émotion l'heureuse découverte du mensonge, cette magique chambre à gaz, expression de l'écrivain Céline souvent reprise par les négationnistes. Ensuite, témoigner d'un acharnement au travail. On parle de masses d'archives, de kilos de documents. Enfin, créer l'ambiance du doute, l'air du soupçon. Une atmosphère que parvient à instaurer Robert Forisson à ce moment précis. Car même si le journal Le Monde justifie cette publication par le trouble provoqué chez les jeunes générations, s'il publie aussi un article de l'historien Georges Vellers intitulé « Abondance de preuves », la victoire de Forisson est totale. Il s'est invité dans le journal de référence, et pire, la réponse de Georges Vellers insinue l'idée qu'il s'agit là d'un interlocuteur crédible que deux écoles historiques finalement se font face. D'autant que Forisson reçoit un soutien inattendu. Il parvient à séduire un groupe d'ultra-gauche en pleine reconstruction, la vieille taupe. L'idéologie négationniste plaît aux révolutionnaires. Si on nie les chambres à gaz et donc le génocide, le véritable responsable de ce second conflit mondial n'est plus le fascisme, mais le capitalisme. Pierre Guillaume, au sein des éditions de la vieille taupe, devient le premier soutien de Robert Forisson. Dans son sillage, des historiens et intellectuels reconnus comme Serge Thion rejoignent le négationniste. En décembre 1981, Pierre Guillaume publie un livre de Robert Forisson, « Mémoire en défense contre ceux qui m'accusent de falsifier l'histoire ». En préface de l'ouvrage, il place un texte de Noam Chomsky, l'intellectuel de gauche américain, qui prend la défense des négationnistes français au nom de la liberté d'expression. Un soutien qui ne manque pas de faire réagir. Pour promouvoir le livre, Pierre-Guillaume convainc Yvan Levaille d'inviter Robert Forisson à son émission matinale « Expliquez-vous » sur Europe 1. Le journaliste accepte. Le 17 décembre 1980, les Français entendent cette interview.
Alors, monsieur, si vous permettez, puisqu'enfin j'ai la parole, j'en viens directement au sujet. J'ai essayé de résumer en une phrase de 60 mots le résultat de mes recherches. Je vous préviens, elle ne m'est inspirée par aucune sympathie ou antipathie politique.
Allez-y.
Alors voici. Les prétendues chambres à gaz hitlériennes et le prétendu génocide des Juifs forment un seul et même mensonge historique qui a permis une gigantesque escroquerie politico-financière dont les principaux bénéficiaires sont l'État d'Israël et le sionisme international et dont les principales victimes sont le peuple allemand, mais non pas ses dirigeants, et le peuple palestinien tout entier. J'en ai terminé avec ma phrase de 60 mots.
Vous êtes conscient qu'en disant cela, là, calmement, à ce micro, vous insultez beaucoup de monde.
Je dirais
même que vous faites mourir des gens deux fois. Vous êtes conscient de ça?
J'entends souvent dire cela. Ce qui m'intéresse, c'est la vérité.
Ainsi, le négationnisme vient de s'inviter à la matinale la plus écoutée de France, à l'époque. Des millions de Français entendent cette phrase de 60 mots dont Forisson fera son slogan. Mais tout cela n'est qu'un fourre-tout idéologique qui mêle le nationalisme à l'anticommunisme, l'antisionisme au fascisme et qui rassemble une partie de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Dans cet océan de malhonnêteté intellectuelle, Robert Forisson nage comme un poisson dans l'eau. En 2 ans, le négationnisme est passé de la marge au cœur de l'espace public. Les historiens, les politiques, les citoyens sont désormais au pied du mur. Ils doivent trouver les réponses pour renvoyer ce discours à sa place légitime, les poubelles ou mieux encore, les oubliettes de l'histoire.
Un an, marié et père de famille, suspendu d'enseignement pour cause de scandale, le professeur Robert Forisson est un petit homme sec et têtu. Depuis des années, il joue à l'historien qui a raison face au monde entier qui a tort. Et plus on le condamne, plus il s'entête à répéter que les chambres à gaz n'ont pas existé dans les camps nazis. Je pense même qu'il est coincé dans ce système, car s'il admettait aujourd'hui qu'il a eu tort, il remettrait en cause, il gommerait des années de recherche et de travail qui sont la justification de son existence. Donc, on revit l'histoire dans ces procès à goût de crématoire, et rien n'est plus pénible que d'entendre, comme tout à l'heure, un rescapé d'Auschwitz s'écrier avec dans le regard le souvenir des longues files d'enfants, de vieillards et de femmes nues, mais Alors, où sont-ils, ceux qui ne sont jamais revenus ?
Face à Robert Forisson, se décide à réagir. Le MRAP, la LICRA et six autres associations intentent un double procès contre le négationniste pour ses articles et incitations à la haine raciale dans son interview sur Europe 1. Les associations sont représentées par Robert Badinter et dans les deux cas, en 1981, Forisson est condamné. Et on se rend rapidement compte que ces procès à répétition constituent en fait une tribune pour le négationniste. Médiatisé, il lui offre une nouvelle opportunité d'asséner ses thèses. Auréolé de sa réputation nationale, il assoit sa position au sein d'une nébuleuse négationniste qui s'internationalise. Face à cette offensive, les historiens aussi décident d'entrer dans la bataille. Comme le chercheur Pierre Vidal-Naquet, interviewé quelques années après par Bernard Pivot.
Vous discutez leur thèse, mais vous ne voulez pas parler avec eux.
Ah, il n'en est pas question. Il n'en est absolument pas question. Est-ce qu'un astronome parle avec un astrologue ? Leur donner la parole, c'est leur donner la seule chose qu'ils réclament. Et par conséquent, du jour où on admettra qu'ils dialoguent avec d'authentiques historiens, ils auront gagné la partie. Par conséquent, il n'en est absolument pas question. On les étudie comme on étudie une perversion, une maladie de notre époque.
Les historiens prennent les choses en main et se mobilisent. Des colloques sont organisés sur l'Allemagne nazie et le génocide des Juifs. Georges Wellers publie « Les chambres à gaz ont existé », dont le titre fait directement écho aux négationnistes, bien sûr. Au début des années 80, apparaissent coup sur coup des ouvrages fondateurs, comme « La destruction des Juifs européens » de l'Américain Raoul Hilberg. Certains chercheurs le reconnaissent, le négationnisme a eu un rôle d'accélérateur pour la recherche historique. Pour sa part, Robert Forisson balaie d'un revers de la main ses avancées historiographiques. Car lui se place sur un autre plan, l'aspect technique, la preuve scientifique de l'impossibilité des chambres à gaz. C'est le pilier de son édifice. Alors, peu importe les témoignages, les archives, les recoupements, le professeur de lettres se rêve ingénieur. Les véritables historiens, eux, ne sont pas techniciens et le savent. Ils veulent se concentrer sur le comment, le pourquoi de cet événement. Robert Forisson s'engouffre donc dans sa brèche. Problème, il ne peut plus retourner à Auschwitz. Au printemps 1980, en plein cœur de l'affaire, il rencontre un pharmacien du nom de Jean-Claude Pressac. L'homme s'intéresse depuis plusieurs années à la Seconde Guerre mondiale et aux chambres à gaz en particulier. Il s'est rendu plusieurs fois à Auschwitz et chez lui aussi le doute s'est immiscé. D'abord impressionné par Robert Forisson, Pressac commence à collaborer avec lui. Le pharmacien retourne à Auschwitz à plusieurs reprises. Mais petit à petit, il se rend compte que les thèses de Forisson ne tiennent pas. Quelques années après, il y reviendra sur le plateau de l'émission Ex Libris de TF1.
On m'a dit de ne pas douter, mais vous savez comment sont malheureusement les Français. On aime bien entendre tous les sons de cloche. Je me suis donc tourné vers celui qu'on m'avait dit de ne pas suivre, de ne pas faire pareil. J'ai donc téléphoné à Forisson. Bon. Il est un fait que j'ai travaillé avec lui. C'était, pour ma part, passionnant. Découvrir un sujet comme ça, c'était même ultra passionnant. Mais très rapidement, comme j'étais le seul à pouvoir retourner au musée d'Auschwitz pour vérifier ses thèses et contrôler dans les archives s'il y avait vraiment quelque chose, alors là, ça n'a pas tenu. En deux jours, sa thèse a été balayée. Et puis moi, je me suis retrouvé un peu comme un imbécile.
Jean-Claude Pressac devient le repenti du négationnisme. Son parcours sinueux et la nature de ses travaux troublent la communauté scientifique. Ses travaux sont décisifs pour la recherche historique sur le sujet. C'est surtout un coup terrible porté à Robert Forisson qui disparaît pour un temps des écrans radars comme une œuvre de salubrité publique. En réaction, ce dernier pousse d'autres négationnistes à prendre le relais médiatique. Le 30 avril 1985, Shoah, le film de Claude Lanzmann, sort sur les écrans français et connaît un succès considérable. Le génocide des Juifs, sa mémoire, son histoire s'invitent au cœur de la société civile. Moins d'un mois plus tard, le 15 juin 1985, un chercheur soutient sa thèse à l'université de Nantes. Il s'appelle Henri Rock. Cet ancien ingénieur agronome à la retraite travaille depuis quelques années sur le témoignage de Kurt Gernstein, un ingénieur allemand mort en 1945, qui dans un rapport de 1942 dit avoir assisté à un gazage homicide au camp de Belzec. Dans sa thèse, le français relève les incohérences de ce témoignage central. Son travail s'inspire fortement des thèses révisionnistes. Il est d'ailleurs conseillé par Robert Forisson. Henri Rock reçoit la mention très bien. Une recherche à forte connotation négationniste a donc été tenue au sein même de l'université française. Au cours des mois qui suivent, l'information circule et un an plus tard, elle sort dans la presse. Un journaliste d'Antenne 2 interviewe Henri Rock.
Je ne vous répondrai ni par oui ni par non, mais je vous dirai qu'il y a de bonnes raisons pour les mettre en doute.
Mais alors toutes ces images que l'on a vues, ces files de gens nus qu'on emmenait vers les chambres à gaz, vous en niez l'authenticité ?
Mais on n'écrit pas l'histoire avec des films. Ces images, je pense que ces images d'enfants et d'hommes nus sont exactes. Et les gens ont été déshabillés, c'est peut-être humiliant, mais c'est pas parce qu'ils ont été déshabillés qu'on doit en conclure qu'ensuite ils ont été gazés.
Alors le cyclone B, ça servait à quoi selon vous ?
Eh bien le cyclone B servait depuis 1924 dans l'armée allemande pour désinfecter les locaux et également les vêtements.
En 1986, à nouveau, les thèses négationnistes font la une de l'actualité. Forisson et ses pairs jubilent. En 1987, le procès Klaus Barbie devient un événement tout trouvé pour relayer leur idéologie. Quelques mois plus tard, Jean-Marie Le Pen, le président du Front National, parle de détails de l'histoire au sujet des chambres à gaz. Les polémiques et les affaires négationnistes du antisémite s'accumulent. Au printemps 1990, la profanation du cimetière juif de Carpentras bouscule la classe politique qui décide enfin de réagir. Et le 13 juillet, le Parlement vote la loi Guesso.
Un vote sans consensus. Seuls les députés communistes et socialistes ont voté pour la proposition de loi antiraciste du PC. La loi du 1er juillet 1972, qui visait à punir les actes et propos racistes, en est renforcée. Le révisionnisme, la doctrine défendue par le professeur Forisson ou Henri Rock, et qui vise à nier l'existence du génocide juif par les nazis, devient un délit, entrant dans le champ d'application de la législation antiraciste.
Cette loi s'affiche clairement comme une réponse au négationnisme. Elle fait pourtant débat. Légiférer sur cette question, n'est-ce pas lui donner du poids ? Et puis, est-ce au législateur de faire l'histoire et la juger ? Pour d'autres, cette loi permet aussi et surtout de démasquer l'entreprise négationniste, celle d'une manifestation à peine déguisée de l'antisémitisme. La loi votée, Robert Forisson s'empresse de donner une interview en septembre 1990 au magazine d'extrême droite, Le Choc du Mois, interview dans laquelle il déclare que le mythe des chambres à gaz est une gredinerie. Plusieurs associations d'anciens déportés se portent partie civile et attaquent Robert Forisson pour contestation de crimes contre l'humanité. L'intéressé se frotte les mains. Il retrouve sa tribune favorite, sa nouvelle salle de classe. Au procès, Forisson fait sa leçon pour les membres des associations. C'en est trop. Plusieurs personnes quittent la salle d'audience.
Il continue à prétendre que ça n'existe pas. Et moi, je témoigne qu'il y a 50 ans que je suis privée de mes 5 frères et sœurs.
Si vous me quittez la salle d'audience, je découte un connard pareil.
Je suis une victime directe. Et ce que j'ai vu est inoubliable. Et je voudrais faire le procès de Nuremberg. Alors voyez où ça va, c'est horrible. Comment les choses se font. On ne peut pas laisser faire cet homme. On ne peut pas le laisser dire. Ou alors je n'ai pas existé, ou alors ça n'a pas été vrai. Je ne sais plus quoi dire, c'est l'horreur.
Le 18 avril 1991, Robert Forisson est condamné par la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris pour contestation de crimes contre l'humanité. Il inaugure la première application de la loi Guesso. 16 ans plus tard, en 2007, il se retrouvera de nouveau devant cette chambre qui juge les mots, mais cette fois en tant que plaignant. Mais rien n'y fait, il sera débouté face à Robert Badinter. De la première polémique jusqu'à la loi Guesso de tribunaux en conférence, Robert Forisson a réussi en une décennie à mettre sur le devant de la scène le discours négationniste. En 30 ans, cette idéologie n'a pas bougé, elle est restée figée sur son postulat. Pour reprendre les mots de Vidal Naquet, elle a simplement remplacé l'insupportable vérité par le rassurant mensonge. Pourtant, avec le temps et l'évolution des technologies, Internet notamment, le négationnisme a muté. Il a conquis de nouveaux territoires, comme les pays arabes et un autre public. Face à ces faussaires de l'histoire, les historiens, la justice, les associations continuent de se mobiliser pour lutter contre ce mal profond et sournois qu'on appelle l'oubli. Robert Badinter ne disait pas autre chose lors de son témoignage devant la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris.
Je terminerai, parce que je le tiens à le dire, sur une note plus personnelle encore. Monsieur Forisson, tout à l'heure encore, vous a répété « Oui, oui, cette entreprise, cette escroquerie politico-financière. » Alors, ça veut dire quoi ? Si on le traduit dans sa vérité humaine comme moi je l'ai vécu, ça veut dire que tous ceux qui sont morts sont devenus les instruments conscients utilisés par tous les juifs pour quoi faire ? Pour arracher des réparations auxquelles ils n'auraient pas eu droit ? Les, je reverrai toujours, ma mère recevant les misérables indemnités parce qu'il ne restait rien. Alors elle était quoi ? L'accomplice ? L'accomplice d'une escroquerie politico-financière ? C'était ça qu'elle faisait à cet instant-là ? Et ses fils, nous, c'étions quoi ? Les profiteurs ? Les bénéficiaires de cette escroquerie ? Les mots d'un sens, sauf pour ceux qui les utilisent, comme vous, et pour qu'il n'y ait aucune équivoque, que les choses soient claires. Pour moi, jusqu'à la fin de mes jours, tant que j'aurai un souffle, monsieur Forisson, vous ne serez jamais, vous et vos pareils, que des faussaires de l'histoire, des faussaires de l'histoire, et de l'histoire la plus tragique qui soit, dont j'espère que l'humanité tira, elle, la leçon et gardera le souvenir.
Que croyais-tu voir dans la rue quand tu m'as croisé cette fois-là ? Que voyais-tu dans mon regard écru ? Tu ne voyais que toi là. Que croyais-tu? Que pensais-tu? Que voulais-tu de moi là? Qui pensais-tu? Tirer entre deux rues, tirer entre deux beaux draps là. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas.
Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Robert Forisson, itinéraire d'un négationniste. Notre invité, Dominique Albertilli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Libération, notre partenaire, tous les 15 jours, et auteur en septembre, avec notre confrère David Doucet des Inrocks, de ce livre que j'ai entre les mains qui s'appelle La Fachosphère. Et encore une fois, un sous-titre, les sous-titres sont importants, et il dit comment l'extrême droite remporte la bataille du net. Effectivement, il y a une petite flèche hein, sur la couverture.
Comme si
on allait cliquer. Alors on a parlé de négationnisme, petite précision sémantique peut-être, d'autres disent révisionnisme, après tout pour les historiens, réviser l'histoire peut être légitime à la lumière de faits nouveaux, de dossiers rouverts, après qu'il fut impossible de les ouvrir, après un délai, voilà, c'était une démarche critique, et donc c'est une science, l'histoire est une science, retour d'expérience, donc révision possible. En revanche, négationnisme, qui lui est vraiment le terme officiel hein, pour qualifier toute démarche intellectuelle qui viserait à remettre en question, et à dire encore plus ouvertement que les crimes nazis n'ont pas existé, pas plus que les chambres à gaz. Voilà, c'est dit. D'emblée, il y a un dilemme quand même qui sous-tend notre conversation, Dominique Albertini. Est-ce que consacrer une émission à Robert Forisson et au négationnisme, est-ce que en parler, bah finalement, c'est pas mettre en lumière quelque chose qu'on devrait laisser dans l'ombre, histoire de ne pas polluer les esprits?
Ah,
vous êtes posé la question, je crois.
Absolument, on s'est posé la question. Alors, peut-être moins sur Robert Forisson que sur ces épigones actuels que sont Alain Soral et l'ex-humoriste Dieudonné, qui ont repris en partie une des thèses de Robert Forisson, et notamment la principale, qui est que le nombre des victimes juives de la Seconde Guerre mondiale a été, sinon nul, en tout cas très surestimé ensuite pour servir les intérêts de ce système qu'il dénonce et qui serait principalement au service d'Israël et de la grande finance. Voilà. Et on se souvient qu'il y a maintenant quelques années, il y a eu énormément de bruit autour des dires et des faits d'Alain Soral et de Dieudonné. Beaucoup d'écho médiatique donné à ces procédures et puis également par le gouvernement aussi hein, qui s'était engagé de manière très ouverte contre ces deux personnages. La question se posait alors de savoir s'il fallait ou pas accorder autant de place aux deux personnes dont on parle, avec de bons arguments à l'appui et en opposition. L'idée étant évidemment qu'il fallait que la lumière soit faite, l'information diffusée, les faits établis sur la réalité de ces deux personnes et de leur discours. Et puis évidemment, l'argument contre étant que est-ce que faire cela ne revenait pas à leur donner une nouvelle audience chez des gens pour qui, par définition, tout ce qui se dresse contre les vérités établies, le gouvernement, le monde tel qu'il est, est-ce que tout ça n'est pas bon à prendre finalement? Il y avait aussi une dimension anti-système chez ces deux personnes qui a pu séduire et à laquelle a pu contribuer l'écho qu'on leur a donné. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse idéale, malheureusement.
Alors qu'est-ce que c'est la fachosphère dans votre esprit?
La fachosphère dans notre esprit, c'est un terme non pas scientifique, mais plutôt polémique, journalistique si on veut.
Bien sûr, c'est une formule.
Voilà, qui désigne simplement l'extrême droite sur Internet. Ce n'est pas autre chose que ça. C'est une extrême droite qui a fait d'Internet son terrain de combat principal. Ce qu'on a découvert et ce qui a motivé ce livre, c'est que sur Internet, l'extrême droite est sans doute la famille politique la plus implantée. Avant les autres, plus que les autres, peut-être mieux que les autres, elle s'est emparée de ce canal pour diffuser un discours dont elle jugeait qu'il n'avait pas suffisamment de place ou qu'il était maltraité dans les médias traditionnels.
Oui, parce qu'elle pensait également, cette sphère-là, qu'il n'y aurait pas les filtres. Le filtre
absolument.
De la presse, par exemple.
Qu'on l'idée est toujours
dire
la même.
Tout et en particulier n'importe quoi.
L'idée est toujours la même, c'est de pouvoir toucher directement le public en passant par-dessus la tête des médiateurs traditionnels que sont, par exemple, les journalistes.
Et ça, c'était fomenté depuis longtemps. Je crois que vous avez retrouvé un document hein, qui disait, alors je sais pas, il remonte à quelle année.
Je vais vous citer, ce sont mes archives. Déjà, rappeler que le Front National a été le premier parti français à se doter d'un site internet en 96. J'ai amené un petit magazine qui n'est pas issu du Front National, mais de la mouvance nationaliste révolutionnaire, néo-fasciste, si on veut. Un petit magazine qui s'appelle Résistance, qui a été publié en mars 2001.
Il s'appelle Résistance, c'est bien.
Voilà, mars 2001, à une époque où Internet est encore largement embryonnaire en France, et il y a tout de même dans ce magazine une page entière consacrée à un réseau de partage musical qui s'appelle Napster, hein, qui était assez populaire à l'époque.
C'est vrai.
Et voilà ce que dit l'auteur, qui est très content de découvrir qu'on peut diffuser sur cette plateforme des groupes de rock identitaires d'extrême droite, qui ont par ailleurs quelques difficultés, et bien sûr à être être écoulée par les canaux traditionnels. Cette affaire nous prouve qu'Internet peut devenir un formidable support de diffusion de notre idéal identitaire. Boycottés par les circuits de distribution traditionnels, les groupes de rock identitaire ont du mal à toucher un large public. Internet nous offre un moyen efficace de contourner la censure et d'échapper ainsi à la ghettoisation de nos idées. Chacun peut désormais diffuser sur le réseau des fichiers MP3 de ses groupes préférés. Ce qui vaut pour la musique valait également pour les idées.
Bien sûr. Alors, on a appris récemment la condamnation d'Alain Soral pour la diffusion d'un dessin jugé négationniste sur un site internet. Revenons sur ce personnage, sa place dans la fachosphère et la manière dont un certain nombre d'idées ont trouvé une nouvelle place sur le terrain. C'est un élément fondamental de ce monsieur.
Absolument. Alain Soral nous offre un discours pas toujours extrêmement construit, hein, pas toujours extrêmement charpenté. Il emprunte à différentes traditions de l'extrême droite qu'il mélange un peu pour en faire un produit à sa sauce. Il y a deux choses structurantes néanmoins dans ce discours qui sont d'une part une vision conspirationniste de l'histoire et de l'actualité, l'idée que tout découle non pas des actions contingentes d'un grand nombre d'acteurs, mais plutôt d'un plan, voilà, d'une espèce de centre obscur d'où partiraient plein de décisions qui influeraient sur notre vie à tous, et d'autre part sur l'antisémitisme, l'idée que le complot dont on parle est mené et en tout cas fait les intérêts notamment de ce qu'il appelle lui les sionistes, mais qui sont sans doute une manière polie de désigner les juifs, poli ou en tout cas détourné. Voilà. Et donc ça, ce sont les deux choses qui structurent le discours soralien et qui ont trouvé dans Internet un canal de diffusion que ce monsieur n'aurait sans doute pas trouvé ailleurs. Voilà. C'est quelqu'un qui a un site Internet très visité, qui tourne régulièrement des espèces de petites causeries où il est sur son canapé, il est filmé face caméra, il parle assez longuement et tout seul. Et ce sont des moments de ce genre où on peut l'entendre expliquer, par exemple, qu'on trouvait dans des chambres à gaz de petites fenêtres. Et donc, il était absolument impossible que des gens aient pu mourir là-dedans, puisque manifestement, il y avait une fenêtre.
Voilà. Ah ouais, ben voyons. En quoi Robert Faurisson, lui, tient une place particulière dans cette mouvance? Alors, fachosphère, peut-être, l'époque où il s'exprime est aussi une époque avant Internet, hein. Et puis après, avec Internet, mais ça commence avant Internet. Quelle place il tient, lui, Robert Faurisson, dans tout ça?
Il tient une place importante. C'est celui. Alors, ce n'est pas forcément le premier à avoir exploré ce chemin-là. Hein. Quelqu'un comme Maurice Bardèche, avant lui, avait un peu posé les bases de ce discours. Mais lui, lui donne une audience nouvelle. Voilà. Il fournit les armes à des gens qui ne veulent pas renoncer à l'antisémitisme pour, en quelque sorte, travestir, habiller ce discours antisémite, lui donner une caution historique, et puis surtout, avec la loi Guesso dont on va reparler, mettre en scène aussi l'affrontement entre ce que lui désigne comme des vérités officielles, et puis la posture du dissident, de celui qui va chercher la vérité malgré l'opposition des juges, de la presse, du système, des grands intérêts. Voilà. Et en mettant en scène ce combat-là, en s'appuyant sur le statut qu'il revendique d'historien, il va structurer et donner à ce discours une nouvelle ampleur, vraiment, et donner à des gens qui ne veulent pas renoncer à l'antisémitisme le moyen de faire passer ce discours-là en contrebande derrière un autre discours qui serait celui de la recherche de la vérité historique.
Alors, il y a aussi quelque chose qui nous interpelle, c'est la collusion entre l'extrême droite et, on va dire, une partie de l'extrême gauche dans cette démarche-là. Elle est réelle, celle-là ?
Alors, elle est réelle. Son importance est difficile à évaluer.
C'est pour ça que j'ai dit une partie.
Voilà, bien sûr. Ce qui est vrai, c'est que chez des gens qui sont, ou en tout cas qui ont été à un moment de leur vie de gauche, on retrouve des formes de discours qui peuvent se rapprocher de ces thèses-là. La porte d'entrée ici étant moins l'antisémitisme traditionnel de l'extrême droite que l'antisionisme, voilà, l'opposition à l'État d'Israël.
Et à un moment, il y a une frontière qui est poreuse entre l'antisionisme, après tout, qui n'est pas délictuel, c'est une opinion politique, l'antisémitisme, c'est autre chose. Ça, absolument, c'est un délit. Et il y a peut-être une frontière entre les deux qui devient poreuse.
Elle peut exister. Alors, toute la difficulté du sujet, c'est qu'on connaît quelques exemples réels de dérives du genre de celles dont vous parlez. Mmh. Et il y a en même temps aussi l'idée, parfois, d'assimiler tout antisionisme à de l'antisémitisme. Donc, évidemment, tout ça c'est est au cœur de très nombreux débats qu'on pourra sans doute pas trancher ici. Néanmoins, vous avez raison, on connaît, et notamment autour de Dieudonné, quelques figures de gens qui viennent de la gauche, d'une certaine gauche, et qui ont clairement dérivé par antisionisme dans un discours très proche de l'antisémitisme.
Ou très proche. Alors, cette histoire de Forisson montre aussi le lien entre l'extrême droite et le discours négationniste, hein, ça c'est clair. On sait que François Duprat, par exemple, numéro 2 du Front National, assassiné en 78, avait traduit l'un des premiers célèbres articles négationnistes. Donc, le négationnisme, il est présent dans le Front National originel. Hein. Après, on verra où il est aujourd'hui et s'il est là, mais il est présent dans ce Front National, Le Pen et près Le Pen d'ailleurs.
Il est présent et on doit à Jean-Marie Le Pen la persistance dans le débat public à un niveau national avec une grande visibilité, la persistance d'éléments de discours négationnistes.
Et on va écouter justement Jean-Marie Le Pen lorsqu'il s'exprimait le 13 septembre 1987 sur le plateau de RTL Le Monde. Jean-Marie Le Pen, écoutez, répond à une question sur les chambres à gaz, on connaît hein, cette déclaration, on l'écoute quand même.
Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir. Je n'ai pas étudié spécialement la question. Mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
Mais vous mettez en doute...
C'est un point de détail.
Non, mais est-ce que
6
c'est...
6 millions de morts.
Est-ce que vous affirmez... Non, pardon.
Je ne l'ai pas compris, mais...
Non, mais 6 millions de morts, comment c'est...
Juifs. Oui. Dans la Seconde Guerre mondiale, vous considérez que c'est un point de détail?
Non, c'est la question qui a été posée. C'est de savoir... Comment ces gens ont été tués ou non, n'est-ce pas?
Oui, c'était pas un point de détail quand même.
Si, c'est un point de détail, je veux dire de la guerre, oui. Enfin, écoutez, est-ce que c'est... Voulez-vous me dire que c'est une vérité révélée à laquelle tout le monde doit croire? C'est une obligation morale. Je dis qu'il y a des historiens qui débattent de ces questions.
Il y a une immense majorité d'historiens qui l'ont dit et prouvé, et quelques autres qui...
Non, mais vous-même, Monsieur Le Pen, est-ce que vous considérez qu'il y a eu un génocide de juifs?
Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de centaines de milliers, peut-être des millions de morts juifs, et aussi de gens qui n'étaient pas juifs, n'est-ce pas?
Dominique Albertini, on connaît, je le disais tout à l'heure, cette déclaration, mais quand on l'écoute, et on a beau l'écouter 20 fois, elle nous interpelle toujours autant, on s'est dit, mais... Comment cela a-t-il été possible sur la scène médiatique? Mais c'est pas Internet, c'est une radio.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on en retient souvent les quelques mots, les trois mots, en l'occurrence, point de détail.
Oui. Enfin, ce qu'il y a autour.
On entend aujourd'hui qu'il y a plus autour. Il y a des éléments au moins aussi troublants. Après tout, si on voulait vraiment pousser le raisonnement, enfin, si Jean-Marie Le Pen voulait se défendre, il pourrait aussi bien dire que c'est un point de détail ne veut pas dire que ça n'a pas eu lieu. Sauf qu'on entend aussi avant et après, je n'ai pas étudié la question, les historiens débattent de ces questions, la façon dont ces gens sont morts ou non.
Il y a
non.
eu des morts, mais pas que des juifs.
Des morts, pas des juifs. Voilà, donc il y a en plus de la question du point de détail, qui est déjà une manière de relativiser l'importance, il y a même une manière de mettre en doute l'existence de ces événements ou non. Voilà, et ça, on l'entend bien dans l'extrait complet.
Le FN d'aujourd'hui, c'est le FN débarrassé de ce qu'on vient d'entendre, en gros, pour synthétiser. Parce que, en même temps, on a vu Marine Le Pen poser sur une photo en Russie à côté d'un député ouvertement antisémite. Alors,
affirmant qu'elle ne savait pas qui il était. Après tout, on peut très bien lui donner acte de cette réponse. Pourquoi pas? On a aussi vu le Front National, en revanche, expulser assez récemment, ou promettre de le faire, l'un de ses responsables niçois, gérant d'une librairie où étaient vendus précisément des ouvrages de Robert Forisson, entre autres.
Donc il y a des traces, quoi.
Donc il y a des traces. Ouais. Cela dit, s'il faut retenir une définition de la dédiabolisation menée par Marine Le Pen et ses amis depuis maintenant une quinzaine d'années, c'est l'abandon, ou en tout cas la tentative d'abandon, de toute référence à l'antisémitisme dans le discours officiel du parti. Je parle de celui qui est tenu par ses représentants nationaux qui ne contrôlent pas toujours, évidemment, la parole des militants de base. Hein, Louis Alliot, compagnon de Marine Le Pen, vice-président du FN, donnait cette définition de la dédiabolisation il y a quelques années. La dédiabolisation, ça n'est que ça. Ça n'est que nous débarrasser de la présomption d'antisémitisme. Ça ne concerne pas l'immigration, ça ne concerne pas l'islam. Et à la limite, il n'est même pas forcément mauvais d'être diabolisé sur les questions d'immigration ou d'islam. Donc, on voit vraiment à quel point le Front National a identifié ce problème de l'antisémitisme comme le facteur numéro un de son plafonnement électoral et comme le verrou à faire sauter pour devenir acceptable à un plus large public. Il essaye de le faire. Marine Le Pen, dans l'une de ses premières déclarations, lorsqu'elle prend la présidence du FN, qualifie la Shoah de summum de la barbarie. C'est une déclaration que n'aurait peut-être pas faite son père. Mmh. Après, on voit qu'il reste dans le parti, manifestement, des éléments qui n'ont pas tout à fait intégré cette nouveauté.
On va écouter la voix d'un monsieur qui a beaucoup contribué au débat, un grand historien, Pierre Vidal-Naquet, au moment de la sortie de son ouvrage intitulé « Les assassins de la mémoire », titre très fort, hein. Il explique ce lien direct entre l'entreprise négationniste et la volonté d'atteindre la mémoire de la communauté juive.
Pierre Vidal-Naquet, une question plus personnelle et assez douloureuse. Votre mère est morte au camp de concentration d'Auschwitz.
Ma mère et mon père.
Et votre père aussi, vos deux parents. Est-ce que vous seriez entré aussi vivement sur ce terrain-là si vous n'aviez pas été frappé par ce malheur?
Je pense que non. Mais je pense aussi tout de même que c'est le devoir de l'historien de faire cela. J'en connais qui n'ont pas subi cette expérience et qui sont aussi entrés dans la bataille. Mais c'est vrai que cette expérience ne pouvait pas ne pas compter énormément pour moi.
Oui. Le titre de cet ouvrage, Les assassins de la mémoire, je voudrais que vous l'expliquiez, c'est un beau titre.
C'est parce que l'intention des pseudo-révisionnistes est de continuer sur le plan de la mémoire ce que les nazis ont fait sur le plan des corps. Après l'assassinat des corps, il y a l'assassinat de la mémoire, détruire la mémoire d'un groupe humain qui a été martyrisé et l'anéantir et continuer ainsi l'œuvre des nazis.
Voilà une belle synthèse de ce que nous avons dit ou tenté de dire, ce sur quoi nous avons débattu. Alors la loi Guesso, elle a été une avancée forcément dans l'esprit, hein, bien sûr, mais dans son efficacité, que dire ?
Ah, question compliquée. Il y a indubitablement une efficacité dans la mesure où c'est une loi qui coûte cher aux négationnistes. Mmh. Aller devant les tribunaux de manière répétée, payer des avocats, payer les dommages et intérêts lorsqu'on est condamné, être ensuite marqué comme ayant été condamné pour ces faits, tout ça a un coût qui est à la fois un coût financier, un coût moral, un coût d'image pour les négationnistes. Donc dans ce sens, c'est sans doute un outil qui a son efficacité. Le revers de la médaille, évidemment, c'est que cela encourage les négationnistes en question à dénoncer une histoire officielle, à dénoncer, en revanche, à évoquer une histoire interdite, la leur, celle qu'ils voudraient raconter, mais qu'on les empêche de dire. Et évidemment, ça donne à ce discours aussi l'attrait de l'interdit, de l'antisystème. Donc ça peut contribuer aussi à attirer des esprits pour qui ces dimensions-là comptent. Il y a un dernier effet de bord de la loi Guesso que je voudrais signaler. Il y a un site en France assez connu qui s'appelle F de Souche, hein, qui est un site internet
F de Souche, donc français
comme Français de Souche. Qui est le site phare de la mouvance identitaire qui rassemblait, quand on écrivait le livre, 1 million de lecteurs par mois à peu près, qui est vraiment très fréquenté, qui a un rôle important dans l'extrême droite de ces 10 dernières années. On a interrogé le patron de ce site, qui s'appelle Pierre Sautarel. Voilà ce qu'il nous dit. Le cadre juridique français nous a forcés à nous adapter et à polisser le message. Et on ne va pas s'en plaindre, car on touche désormais un public que nous n'aurions jamais atteint sans cela. Une liberté d'expression totale nous aurait empêchés d'évoluer. Il suffit de comparer la fachosphère américaine à la nôtre. Alors qu'ils en sont toujours à poster des billets sur le Troisième Reich, nous avons quant à nous adopté le langage politiquement correct de nos adversaires. Et donc on voit aussi comment ces barrières juridiques poussent la famille dont on parle à des stratégies d'évitement, d'innovation lexicale, à de rénovation intellectuelle qui la rendent moins facilement attaquable, notamment en justice.
Alors on va terminer par une question d'actualité autour de ce qu'on appelle l'abstention différenciée. Il y a 2 jours, le journal Libération, votre journal, publiait un article fort intéressant de Serge Galam, physicien, chercheur au CNRS et membre du CEVIPOF de Sciences Po, donc un monsieur sérieux. Hein. Il dit, écoutez, par exemple, pour une participation globale de 79%, avec 44% d'intention de vote pour Marine Le Pen, hein, pour les projections pour le second tour, elle obtient une majorité de 50,25 si la participation pour elle s'élève à 90% contre 70% pour son challenger. Ça veut dire que si ceux qui veulent voter Front National au second tour, pour des raisons diverses, hein, se mobilisent, on sait qu'ils se mobilisent fort, et si la mobilisation pour son rival à ce moment-là, au deuxième tour, est plus faible, alors des projections à 40% qu'on nous donnerait au soir du premier tour, bah, faudrait les prendre avec beaucoup de prudence, parce qu'elles pourraient se transformer par un phénomène mathématique en majorité.
Et oui, ça nous montre à quel point les choses ont changé depuis 2002. 2002, on est sur une accession au second tour qui, pour beaucoup de monde, est une surprise. Et on voit dans l'entre-deux tours une mobilisation énorme, massive, de tous les adversaires du Front National, tout camp confondu, qui vont aboutir à la très large défaite de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Non seulement on tient pour acquis l'accession de Marine Le Pen au second tour, mais en plus, on peut imaginer que même ce phénomène-là ne suscitera pas une contre-mobilisation suffisante pour la faire battre. Ce n'est pas forcément ce qui va se passer, mais ce qui était impossible devient seulement improbable.
Merci infiniment Dominique Albertini. Je rappelle le livre que vous avez écrit avec David Doucet, La Fachosphère, chez Flammarion. Merci. Au revoir.
Merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les négationnistes, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons la vie et l'œuvre de Nelson Mandela.